Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à tous, bonjour à tous. L'importance de la dénomination GNU Linux, le logiciel libre JAMI, des nouvelles de Julien Négro d'Enercop et de François Poulain de l'April, c'est au programme de l'émission du jour sur Cause Commune. Vous êtes bien donc sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Cause Commune sur la bande FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi à 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. Et sur internet, c'est 24h sur 24. La radio diffuse également en DAB+, en Ile-de-France, c'est la radio numérique terrestre, 24h sur 24. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Si vous êtes une auditrice ou un auditeur régulier, que vous avez manqué nos émissions du 31 mars et du 14 avril, ce changement de voix vous aura peut-être étonné. Rassurez-vous, Frédéric Fabien, et vous le retrouverez très rapidement. L'objectif est simplement de se répartir la charge et que Libre à vous soit aussi peu dépendante que possible d'une unique personne. Une pratique de pérennisation qui vaut aussi bien pour un projet logiciel que pour une émission de radio. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y retrouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toutes les autres informations utiles en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes le mardi 28 avril 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise que depuis 7 mars, nous diffusons dans des conditions exceptionnelles suite au confinement. Toutes les personnes qui participent à l'émission le font donc de chez elles, et d'un point de vue technique, nous utilisons Mumble, un logiciel libre d'audioconférence. Je profite d'ailleurs pour rappeler que vous pouvez tester et utiliser ce logiciel via le serveur Chapril, en vous rendant tout simplement sur chapril.org, et pour retrouver ce service et d'autres. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme de cette émission. Nous commencerons d'abord par la chronique Partagée et Bon de Véronique Bonnet qui nous parlera de l'importance d'utiliser la dénomination GNU Linux. Nous prendrons ensuite des nouvelles de Julien Négro d'Enercop que nous avions reçues lors du Libre à vous du 26 novembre 2019. Je passerai ensuite la parole à Frédéric Couchet qui échangera avec Cyril Béraud et Christophe Villemer sur JAMI, un logiciel libre qui permet de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet. Enfin, nous prendrons des nouvelles de François Poulain, trésorier de l'April et artisan du logiciel libre chez CLIS21. La réalisation de l'émission William de la radio Cause Commune. Et tout de suite, place au premier sujet. Alors nous allons donc commencer par la chronique Partagée et Bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April, qui, à partir du texte « Qu'y a-t-il dans un nom ?» de Richard Stallman, va nous parler de l'importance d'utiliser la dénomination GNU Linux. Bonjour Véronique, donc je te laisse la parole.
Bonjour Étienne. Alors effectivement, là je vais commenter un texte de Richard Stallman qui a été publié en 2000. Alors c'est dans la philosophie GNU, dans la section « Histoire de GNU Linux ». Et comme tu l'as dit Étienne, le titre est « Qu'y a-t-il dans un nom ?» What's in a name? Alors, dans cet article, si j'avais le résumé, je dirais que Richard Stallman met les points sur les i au sens propre. C'est-à-dire qu'il propose d'adopter, pour parler de logiciels libres, les termes justes. Il est important d'éviter l'à peu près. Comme si, en ce sens, Richard évoquait une éthique du lexique. En effet, parler fait intervenir des noms qui ne doivent surtout pas égarer, qui doivent atteindre leur cible. Et je dirais que Richard Stallman accorde une attention très particulière à la justesse de la dénomination. Il est important de choisir des termes qui reflètent fidèlement les idéaux du free software sans les réduire à des dispositifs techniques. Alors, comme j'enseigne la philosophie, avant d'entrer dans le texte de RMS, je vais rappeler que ce souci du mot juste est très important dans l'histoire de la philosophie. Par exemple, dans les dialogues du philosophe Platon, au IVe siècle avant notre ère, il y a souvent un personnage, Socrate, qui va demander aux sophistes, ceux qui jouent sur le sens des mots, de bien faire attention à ne pas abuser de ce pouvoir, essayer de ne pas employer un terme pour un autre. Entrons maintenant dans le texte de Richard Stallman. Les noms véhiculent des significations. Le choix des noms détermine la signification de ce que nous disons. Un nom mal choisi donne aux gens une idée fausse. Alors, en grand pédagogue qu'il est, Richard commence par une image. Il commence par faire référence d'une façon très élémentaire à ce qui nous est déjà arrivé. Une rose, quel que soit son nom, sentira toujours aussi bon. Mais si vous l'appelez stylo, les gens seront plutôt déçus quand ils essaieront d'écrire avec. Et si vous appelez les stylos des roses, les gens pourraient ne pas réaliser à quoi ils servent. Autrement dit, ici, Richard Stallman fait état d'une déception ou bien d'une incompréhension qui pourrait résulter d'une confusion du lexique. Et donc, un nom pour chaque chose devrait permettre de refléter sa fonction sans brouiller les idées. Après la métaphore, RMS applique à l'informatique cette enquête sur une confusion possible. Si vous appelez notre système d'exploitation Linux, cela véhicule une idée fausse de l'origine du système. Si vous l'appelez GNU Linux, cela véhicule, mais sans la détailler, une idée juste. Alors, nous allons nous arrêter ici, à cet endroit du texte. Pourquoi faudrait-il avoir une idée juste de l'origine de GNU Linux? Après tout, pourquoi ne pas se contenter de la fonction? Parce qu'on pourrait s'imaginer que l'utilisateur cherche avant tout à agir avec des lignes de code et obtenir des effets. La réponse de Richard dans ce texte est impérative, à savoir, je lis, « Le monde du libre qui s'est développé autour de GNU Linux n'est pas en sécurité. Les problèmes qui nous ont amenés à développer GNU ne sont pas totalement éradiqués et menacent de revenir. » Pourquoi alors s'intéresser à l'histoire de GNU Linux? Retournons aux origines, parce que ceci rappelle l'exigence éthique du projet GNU, lancé en 1983, qui, à un certain moment de son développement, a bien sûr utilisé le noyau Linux lorsque l'informaticien Linus Torvalds l'a libéré. Et donc on voit que si on utilise la dénomination Linux, alors on réduit l'informatique libre à un épisode qui sera seulement technique et on ne se réfère qu'à une partie du projet. GNU est un projet éthique, politique, humaniste. Écrire du code pour rendre l'utilisateur autonome. Alors que Linux, à un moment donné du développement de GNU, est un dispositif technique. Et donc si on appelle GNU Linux, Linux, bon, c'est un peu la même chose qu'appeler une rose un stylo, hein, c'est réduire un projet existentiel à un détail matériel. Et ici, Richard Stallman précise que pour certains, cette confusion sur la dénomination, c'est une tentative délibérée de ne garder qu'une dimension de l'histoire de GNU Linux, à savoir l'épisode de Linux. Il le précise, Richard Stallman rapporte qu'un PDG a demandé à des utilisateurs de, je cite, « laisser tomber l'objectif de la liberté pour travailler à la place en faveur de la popularité de Linux ». Et là, c'est la porte ouverte à l'ajout de logiciels non libres, à l'ajout de bibliothèques et d'outils non libres. Richard Stallman va ici utiliser le terme de piège et va analyser le piège qui résulte de cette confusion des noms. Si notre communauté continue d'aller dans cette direction, cela peut rediriger l'avenir de GNU Linux vers une mosaïque de composants libres et non libres. Dans 5 ans, nous aurons certainement toujours beaucoup de logiciels libres, mais si nous ne faisons pas attention, ils seront difficilement utilisables sans les logiciels non libres que les utilisateurs espèrent trouver avec. Si cela arrive, notre campagne pour la liberté aura échoué. Et c'est pourquoi Richard Stallman fait ici une demande insistante qui se trouve motivée, qui se trouve légitimée, je cite le texte à nouveau, pour inciter les gens à faire ce qui doit être fait, nous avons besoin d'être reconnus pour ce que nous avons déjà fait. S'il vous plaît, aidez-nous en appelant le système d'exploitation GNU Linux. Il faut éviter de nommer mal. Il faut éviter de prendre la partie pour le tout. Il faut éviter de prendre un épisode du développement de GNU pour GNU lui-même. Certains le font délibérément. Et là, je pense à une philosophe du XXe siècle, je pense à Hannah Arendt, qui avait fait paraître, en 1969, 4 essais politiques qu'elle avait appelés « Du mensonge à la violence ». Et parmi ces essais politiques, il y en avait un, « Réflexion sur les documents du Pentagone », où elle se référait à la violence symbolique qui consistait à jouer sur les mots, à fausser certaines dénominations à des fins, soit de minoration de ceux de quoi on ne voulait pas parler, de majoration de ceux de quoi on voulait parler. Bon, déjà, en 1948, Orwell, dans 1984, avait évoqué la novlangue, c'est-à-dire une ruse pour manipuler le langage et pour manipuler la réalité. En conclusion, logiciel libre, j'écris ton nom, je dis ton nom correctement, sans oublier ta racine idéaliste, sans oublier ton principe. Étienne, donc je dirais non pas Linux, mais GNU Linux, GNU est ce qui donne direction et sens à la communauté du logiciel libre. Dire GNU, ce n'est pas dire je, c'est dire nous.
Merci Véronique, très, très intéressant. Et comme dit justement CPM sur le salon livre, le salon de l'émission, que c'est un texte ancien mais toujours vraiment d'actualité. Et d'ailleurs, t'as cette réflexion, on pourrait très bien s'appliquer à la différence que nous faisons entre logiciel libre et open source. Et un autre auditeur nous a remarqué que c'était un vieux combat, effectivement, hein, qui est au moins depuis 1994, mais publiquement depuis 1996. Donc il est toujours important de rappeler ces bases-là. Un grand merci Véronique. Eh bien, je vous propose présent de faire une courte pause musicale. Nous allons donc écouter Néotérique par Cloudkicker. Nous on se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
D'écouter Néotérique par Cloudkicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez des références sur le site de film.org. D'ailleurs, vous retrouvez également le texte, bien sûr, mentionné dans la chronique précédente sur cette même page. Alors, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fr. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre avec Julien Négro, ministre MC Enercop, que nous avions donc reçu le 26 novembre 2019, le podcast 46 de Libre à vous. Donc Julien, tu es normand avec nous, comment vas-tu ?
Bonjour, tout va bien, merci.
Alors nous, bien sûr, nous invitons à les personnes qui suivent le podcast, qui nous écoutent, à aller écouter le podcast de novembre, hein, s'ils veulent creuser le sujet. Mais sans rentrer d'un coup dans les détails, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous présenter ce qu'est Enercop, s'il te plaît.
Alors je suis Julien Negros, je suis administrateur système donc Enercop. Je suis aussi membre de l'April, comme Enercop d'ailleurs. Du coup, on travaille au service informatique de la coopérative avec trois de mes collègues. Et du coup, Enercop, c'est une coopérative, c'est plusieurs coopératives de fournisseurs d'électricité d'origine uniquement renouvelable. Et en circuit court.
Super, très bien résumé. Et du coup, voilà, donc comme je disais, comme il y a déjà eu un podcast, on a pu creuser le sujet. Si les personnes sont intéressées par ce modèle très spécifique qu'est Enercop, et dans la distribution d'électricité non plus, vous êtes plutôt une exception. Donc c'est un sujet passionnant, voilà, que nous invitons les personnes à retrouver sur le podcast 46. Donc là, j'imagine que dans la situation actuelle de confinement, ça a dû avoir un impact sur la manière dont vous travaillez. J'imagine que tu es surtout en télétravail.
Ouais, tout à fait. On est tous en télétravail. Nous à l'admin 6, on va de temps. Enfin, mes collègues qui sont restés en région parisienne, moi j'ai un peu honte de le dire, mais je suis parti. ils retournent de temps en temps dans les bureaux quand c'est nécessaire pour envoyer du matériel, préparer du matériel, envoyer du matériel. Mais sinon, on est tous confinés chez nous. On travaille tous à distance avec les outils, pas mal d'outils numériques qu'on avait mis en place précédemment et d'autres qu'on a mis pendant le confinement.
D'accord. Alors, est-ce que le télétravail, c'était quelque chose que vous pratiquiez déjà ? Vous avez dû, justement, un peu, entre guillemets, découvrir ça dans cette situation ?
Alors non, on pratiquait déjà à plus ou moins d'importance en fonction des services, des pôles, comme on appelle ça. Par exemple, le pôle service client, pôle client en général, le pratiquait assez peu jusqu'à cette année, et c'est tout récent, donc c'est plutôt bien tombé. Enfin, je peux pas dire ça, mais on va dire que c'est bien tombé qu'il ait été décidé de faire du télétravail pour le service client cette année, parce que du coup ça a pu préparer un petit peu le terrain. Sinon ça aurait été un peu compliqué, parce qu'ils ont beaucoup d'ordinateurs, et c'est des ordinateurs normalement des ordinateurs fixes, et du coup on a dû trouver des portables pour toutes ces personnes à l'époque et juste avant le confinement, compléter pour qu'elles puissent travailler à distance. Donc non, on travaillait déjà en télétravail pas mal, donc c'était déjà bien déchiffré, mais bon, défriché. Mais à cette échelle-là, c'est sûr que c'est une première, mais c'est une première pour tout le monde, je pense.
Oui, c'est sûr. Puis ces conditions, on l'a déjà évoqué, sont assez particulières de télétravail. C'est pas du télétravail, on va dire, entre guillemets, normal. Et toi, d'ailleurs, à titre personnel, t'as eu plutôt tendance à télétravailler avant, à bosser depuis vos locaux professionnels ?
Pas beaucoup, c'est à peu près deux fois par mois. C'est un peu informel aussi, c'est en fonction des besoins. C'est une pratique assez récente dans notre branche, dans notre service admin 6 là. Et je crois qu'il y a surtout moi qui en profite et mon responsable aussi. Oui, moi j'ai déjà un peu l'habitude de le faire. C'est vrai que c'est quand même plus commode pour nous d'être proche du matériel mais finalement là depuis un mois et demi on arrive à travailler assez normalement au niveau de l'admin 6. Pour la gestion du matériel, effectivement, ça nécessite d'aller sur place pour mes deux camarades qui peuvent le faire, mais heureusement c'est pas hyper courant, et puis la plupart des choses on peut les gérer à distance, ouais.
D'accord. Et là en plus il y a forcément le changement, on va dire, de temporalité où c'est tous les jours le télétravail. Dans ton approche du télétravail, tu as senti quand même des changements, ou finalement c'est juste tous les jours au lieu d'être deux fois par mois, mais comment tu le perçois de ce point de vue-là ? Comment tu le vis, on va dire, de manière générale ?
C'est pas évident. Au niveau personnel, je dirais que c'est plus... j'ai toujours eu du mal à être vraiment très efficace en télétravail à mon goût. Et là, en plus, sur les semaines durant, ça devient de plus en plus marqué, je trouve. Mais ça dépend aussi des fois. Là, ces derniers temps, ça allait plutôt bien niveau motivation et compagnie. Mais c'est sûr que d'être isolé, enfin isolé entre guillemets, isolé physiquement, on va dire, c'est je trouve que ça peut marquer un petit peu la motivation, en tout cas pour moi. Et heureusement, on a mis en place des réunions régulières qu'on faisait pas avant, déjà avec mes collègues directs et puis avec voilà, donc on peut quand même discuter et puis avoir du lien, quoi, ce qui est quand même important. Quand on travaille, c'est ensemble, donc quand on est isolé physiquement, c'est un petit peu spécial.
Oui, c'est juste, et on le ressent, je pense que c'est clair, comme tu le dis, hein, t'es clairement pas le seul dans cette situation, je pense qu'on est nombreux à passer par nous, où ça nous fait beaucoup de bien au sein de l'April, avec, que ce soit au sein de l'équipe salariée, mais aussi avec des bénévoles, on essaie d'avoir un point hebdomadaire pour prendre des nouvelles, pour maintenir ce lien dit, d'avoir un échange. Nous, par exemple, on utilise, qui est le même logiciel là qu'on utilise pour l'émission, voilà, d'avoir ce point hebdomadaire d'un point de vue organisationnel. Donc, t'as commencé à nous en parler, mais alors, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place, peut-être que ce soit un point de vue technique et point de vue organisationnel pour garder, on va dire, à la fois le moral et le lien dans cette situation si particulière.
C'est du coup pas mal de réunions à distance, enfin de discussions, même ça peut être un peu informel. On a fait aussi des apéros, comme beaucoup de gens ont découvert avec le confinement, avec des outils de visio. Et comme je parlais de mise en place, justement, on était depuis le début de l'année, on a changé de solution de visio et on en avait pris une officiellement. Propriétaire que je nommerai pas, mais elle est très connue, elle est devenue très connue. et en parallèle, on voulait mettre en place une solution libre, mais on avait des problèmes techniques. Et finalement, ça a accéléré le besoin parce que en plus, on avait des interrogations légitimes de salariés et de sociétaires sur nos choix logiciels, et ça nous travaillait beaucoup, surtout nous à l'admin6. Donc on a mis, je crois que c'était fin de semaine dernière. On a lancé un Jitsi pour pouvoir faire des réunions, pour pouvoir avoir une solution hébergée libre, auto-hébergée et libre de visio et de visio, pas nécessairement d'ailleurs de réunions en général, parce que Mumble ça pourrait être une solution effectivement, mais c'est uniquement vocal et nous on peut avoir besoin, enfin les personnes réclament le besoin visuel et aussi le fait de pouvoir partager son écran qui peut être utile pour faire des présentations ou pour montrer des choses pour montrer des choses particulières. Donc on a mis ça en place tout récemment et c'est grâce au confinement quelque part, que ce soit allé plus vite que prévu.
Mais en fait, il faut savoir aussi, c'est y trouver des opportunités. Moi, cette phrase, alors je sais plus où je l'ai entendue, mais que je trouve très juste, qu'il faut pas gâcher non plus cette crise, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir en trouver une ressource pour se changer, pour explorer, pour être créatif, pour se réinventer aussi. Et justement, ce n'est pas qu'une période morte, c'est aussi un moment où on peut en profiter pour mettre en place ce genre de système. Donc, tant mieux. Tant mieux si vous faites ce travail-là et cet effort-là. Christian nous demande via le chat libratoire sur libratoire.org à quand un compte officiel sur Mastodon, et il nous demande combien de personnes dans l'équipe IT, et si vous avez d'autres outils libres que vous utilisez de manière générale d'ailleurs.
Alors,
beaucoup de questions en une, désolé.
Ah non, mais pas de problème. Mastodon, moi je serais absolument pour. Après, géré au niveau de l'équipe communication. Je vais le suggérer. Effectivement, c'est vrai que ça serait bien. Il me semble qu'il en était question pendant un moment. Je reposerai la question. Après tout, ça doit pas être si compliqué de gérer les deux, enfin un autre réseau social du même type et celui-là. Et au niveau des outils libres. J'en ai parlé pendant ma dernière intervention. On a quasiment exclusivement des, enfin non, peut-être pas quasiment, mais une grosse partie d'outils libres collaboratifs. Récemment, on avait mis en place un collaborat online pour pouvoir éditer des documents en ligne et du coup sur notre Nextcloud que lui on utilisait depuis longtemps pour le partage de fichiers. On a des pads, on a notre messagerie, elle est sur du libre, notre téléphonie aussi. Alors sur la téléphonie, on n'a pas Mumble, mais on a des conférences téléphoniques. On peut créer des conférences téléphoniques avec Astérix. Il demandait le nombre de personnes à l'IT. Alors ça dépend où, parce qu'en fait nous on est dans une branche, donc la branche administration système, on est 4 et en tout dans le pôle numérique qui inclut des gestions de la data, comme on dit, enfin des données et du développement à la fois web ou ERP et aussi les responsables produits. J'ai peur de dire une bêtise, mais je dirais qu'on est une vingtaine. Parce que si je réfléchis, je connais évidemment tout le monde, mais là, si je veux répondre rapidement, je dirais que c'est une vingtaine.
Ok, merci. Alors j'en profite parce qu'on a évoqué pas mal de logiciels. On pourra mettre des liens, on mettra bien sûr les liens de référence, et notamment des références sur des émissions. On a abordé ces logiciels spécifiquement. Voilà, par exemple, tu évoquais Jitsi, on avait reçu à distance donc le créateur du logiciel Jitsi qui nous avait un peu parlé justement du logiciel. Donc voilà l'occasion de creuser le sujet. Je m'interrogeais sur l'impact que ça a d'un point de vue administration système. J'imagine qu'il y a des besoins nouveaux qui sortent. Quel impact ça a et comment vous mettez-vous en place l'administration à système à distance, le support, j'imagine, le support de utilisateurs et utilisatrices.
Moi je suis assez satisfait. Enfin, il y a pas de mal à s'auto-congratuler des fois. On n'a pas eu tellement besoin de changer en fait parce que c'était déjà assez solide. Un peu comme Internet a tenu le coup au confinement mondial. Notre SI telle qu'elle était déjà existante, elle était déjà assez solide pour. Et assez complète finalement pour que les gens puissent travailler. Nous, un peu la difficulté parce que on utilise des postes de travail sous GNU Linux, c'est de prendre la main à distance parce que quand on est dans les bureaux, c'est pas un problème, mais quand on est en dehors sur d'autres réseaux, c'est un petit peu plus compliqué. Et heureusement, on a un outil qui a été développé par Easter Eggs, donc notre principal prestataire informatique qui permet de faire ça plutôt bien et du coup on n'a pas de problème pour prendre la main à distance. On peut aussi le faire en VPN en ligne de commande, mais quand il est nécessaire de faire des manipulations en graphique, on peut le faire aussi. C'était un peu ça la difficulté que je craignais moi, mais finalement ça se passe plutôt bien. Et pour tout le reste, les outils en place fonctionnent. Il n'y a pas eu tellement besoin d'ajuster les performances, les configurations pour que ça s'adapte au nombre. À part le VPN, mais on avait déjà dû le faire à cause des grèves. Non pas que je fustige les grèves, loin de là. Mais les grèves ont fait aussi qu'il a fallu à Paris s'adapter beaucoup en télétravail. Donc c'est vrai qu'il y avait ça aussi. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais il y avait ça aussi qui a été un petit peu le baptême du feu. Voilà.
Ok. Et alors du coup, si tu devais dire avec du recul, quels sont les points forts structurels, qui font justement que vous avez l'administration système, qui s'adapte bien, qui soit résilient, on a déjà évoqué un petit peu, mais pour résumer, donc, qu'est-ce que tu recommanderais justement pour avoir une administration système qui tourne bien, qui soit résilient?
Eh ben, je dirais, c'est une question assez complexe, je pense, mais j'ai envie de dire l'humain, parce que mine de rien, on est nombreux par rapport, on est 4 du coup, et de mon expérience, c'est beaucoup par rapport au nombre de, parce que on fait du support pour toutes les coopératives de France, donc ça fait quand même pas mal de monde, mais finalement, on est surtout en contact et on fait surtout du support pour la coopérative de Paris, du coup c'est pour une centaine de personnes, un peu plus, 120. Et c'est beaucoup de personnes pour ça, et c'est ça qui permet, je pense. Il y a plein de choses à améliorer dans notre service, mais Par contre, on peut pas nous enlever le fait, et on nous le dit souvent, et c'est vrai, qu'on est très réactif, et ça, c'est malgré le fait qu'on ait beaucoup de travail, d'être nombreux, ça permet de pouvoir réagir vite quand t'as des choses importantes à faire, et puis au moins envoyer un petit signal qu'on a bien reçu, et pas un signal automatique, hein, un signal réel et humain, quoi, qu'on a bien reçu la demande et qu'on va la traiter dès que possible. Enfin voilà, d'avoir vraiment un lien, d'être disponible, je pense que c'est ça le plus important, finalement.
Super. Et bien sûr d'utiliser du logiciel libre, mais ça va sans dire.
Oui, non, mais ça va sans dire. Non, mais c'est sûr, c'est aussi un avantage. C'est un avantage d'être auto-hébergé et indépendant là-dessus.
Génial. Le but, c'est aussi, voilà, comme j'annonçais, de prendre des nouvelles. Tu nous parlais de motivation, etc. Est-ce que tu as, ces semaines de confinement, trouver des manières, voilà, pour garder cette motivation, garder le moral? Est-ce que tu as des conseils à donner, ou des suggestions, que ce soit par peut-être d'écoute, de films, de ce que tu veux? Voilà, un petit mot en ce sens plus personnel, du coup.
Oui, alors j'ai pas été aussi créatif que pas mal de personnes sur les réseaux, qui est quand même assez incroyable.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça.
C'est plus, enfin, on va s'y mettre. Hein. Je suis confiné avec mon épouse. On a des idées, mais bon, pour le moment, on se force pas, hein, d'ailleurs, mais on l'a pas encore fait. Sinon, niveau culturel, moi, j'avoue que je m'occupe pas mal en lisant. Je suis plutôt bande dessinée et. Je conseillerais d'ailleurs une. Alors moi, j'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu honte, mais j'ai la chance d'être confiné dans les Hautes-Alpes, pas très loin de Briançon, et j'ai relu une bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Aile froide, altitude 3954, qui est magnifique, qui est vraiment un bel objet. Enfin, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut relire, enfin, plusieurs fois, rien que pour la beauté des dessins, qui est donc dessiné par Jean-Marc Rochette et scénarisé aussi par Olivier Boquet. Jean-Marc Rochette, il est plus connu pour Transperce-Neige, qui a quand même été adapté au cinéma par la dernière personne qui a été oscarisée. Alors j'ai appris son nom, c'est John Bonhu, je sais jamais, j'ai honte. John Un-O-Boon, je sais plus.
Je me rappelle pas non plus.
La personne qui a réalisé Parasite.
Pourtant, j'ai
fait. Oui, pardon.
Non, je cherchais aussi, j'ai beaucoup aimé le film et la BD que tu mentionnes, je l'ai lu aussi, et effectivement, génial. J'ai vraiment une super lecture. Je recommande donc chaudement aux personnes qui n'auraient pas lu, et qui sont, surtout si vous aimez la montagne, c'est très fort, ouais.
Ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Déjà, c'est beau, et puis l'histoire est hyper touchante. Je pense que c'est une des rares BD qui m'a vraiment presque arraché une larme.
Autobiographique d'ailleurs, on va en parler. On sent la profondeur, ouais, du coup, ouais.
Oui, il se destinait à être guide de haute montagne et finalement il y a eu un accident dont il parlait, qui est un passage assez incroyable pour de la BD, enfin c'est assez ouf. Et finalement, suite à cet accident, il s'est concentré sur le dessin et c'est très bien aussi.
Bah écoute, moi je pense que c'est un très bon conseil. Je te propose, si tu as un dernier mot à dire, je te propose qu'on s'arrête là, parce que le temps passe, malheureusement.
Bah très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me va très bien. Ça m'a fait plaisir de revenir sur l'émission.
C'est un plaisir que tu reviennes, et puis c'est toujours bien, voilà, de prendre des nouvelles, de voir comment tout le monde passe ce cap, et on garde le lien. Je pense que c'est un terme important. Merci beaucoup, Julien.
Merci à toi, et puis merci à toute l'équipe, et bon confinement.
Oui, porte-toi bien.
À bientôt.
À bientôt. Nous allons donc faire maintenant une pause musicale, comme je pouvais l'annoncer. Nous allons écouter Poison par Ona. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Cause commune, cause-commune.fm.
Nous venons d'écouter Poison par Ona, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution. Vous retrouverez les références, sur le site april.org. Et je précise que ce morceau est une recommandation que nous avons reprise du site auboutdufil.com, dont nous recevions Eric Frodin, le créateur, lors de l'émission du 14 avril, podcast numéro 62. Ainsi que je vous recommande chaudement si vous êtes amateur de musique. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1. Et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec une discussion sur le logiciel libre Jamy, et je laisse pour cela la parole à mon collègue Frédéric Couchet.
Eh bien merci Étienne, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler pendant quelques minutes, une petite vingtaine de minutes, de téléphonie libre, de messagerie instantanée libre, avec nos invités du jour, Cyril Béraud et Christophe Villemer de la société Savoir-Faire Linux. Donc je crois que Cyril et Christophe sont avec nous. Bonjour Cyril, bonjour Christophe.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Alors ils sont tous les deux là, ça nous fait très plaisir de vous avoir en direct, je suppose, depuis Montréal, mais vous allez nous expliquer ça. Donc déjà, avant de commencer, Jamy, peut-être quelques mots sur la société Savoir-Faire Linux. On va peut-être Cyril.
Écoutez, bonjour la France. Moi je suis confiné comme nous tous à Val-David, un petit village au nord de Montréal, et on travaille à distance. Il faut dire que dans le logiciel libre on est quand même bien outillé pour ça, donc c'est pas simple, mais on y arrive bien. Alors Savoir-Faire Linux, c'est une entreprise de services en logiciel libre, je dirais très très classique dans sa forme. On existe depuis 20 ans, on est basé à Montréal, et puis on a une petite filiale également à Rennes, dont Christophe pourra s'en occuper, parce que c'est Christophe qui a poussé cette aventure française qui se passe très très bien. Christophe, peut-être tu peux en dire deux mots.
Oui, un petit mot aussi plus généralement sur Savoir-Faire Linux. Ça fait 20 ans qu'on existe, comme a dit Cyril. D'abord on est très fiers, parce que 20 ans c'est toute une aventure, et puis Savoir-Faire Linux, on est toujours c'est toujours un acteur important aujourd'hui de l'innovation logicielle libre, et puis ça nous force à nous réinventer. Et aujourd'hui, finalement, la crise qu'on vit tous, elle pousse aussi un petit peu, elle accélère en fait notre transition vers notre offre de service qui est poussée aujourd'hui vraiment vers l'industrie 4.0. Donc aujourd'hui, on a vraiment une offre, ce qui est au cœur de notre activité, notre offre de service, c'est principalement tout ce qui est l'ingénierie logicielle, l'ingénierie de produits, les systèmes embarqués, et c'est précisément l'activité de notre centre d'expertise qui est basé à Rennes en France, donc qui est installé à Rennes depuis 2 ans, même si notre filiale existe en France depuis 2014, et qui va très bien parce qu'elle est au cœur de l'innovation de l'IoT et des systèmes embarqués qui massivement sont basculent sous Linux. Donc aujourd'hui c'est une petite équipe, c'est 4 personnes, et on recrute. Donc j'en profite pour passer l'info à nos auditeurs sur notre site. On a des postes à Rennes en système embarqué.
Bah écoute, merci pour cette présentation. On va préciser que IoT, je suppose que c'est l'Internet des objets. Et le site donc, de Savoir-Faire Linux, c'est savoirfairelinux.com. Concernant le nom Linux, je renvoie à la chronique du début de l'émission de Véronique Bonnet, mais on va pas épiloguer plus en avant, vu que Véronique en a parlé en début d'émission. Donc là, on va parler de Jamy. J'ai l'impression qu'il y a un petit écho. Voilà, c'est peut-être parce que quand l'un des autres micros est activé. Donc l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est un petit peu de parler donc des projet phare de Savoir-Faire Linux, dans lequel il y a beaucoup d'innovations. Alors on va pas rentrer dans tous les détails des innovations techniques, mais il y a quand même pas mal d'innovations. Donc Jamy, logiciel libre de téléphonie et de messagerie instantanée. Comment vous présenteriez Jamy avec les principales fonctionnalités à la fois pour le grand public et aussi pour les entreprises, car je crois que ce sont les deux publics cibles, et collectivités aussi sans doute, de Jamy. Qui veut commencer?
Alors, c'est toute une histoire et c'est toute une épopée de Jamy pour Savoir-Faire Linux. Je dirais que ça, même Jamy trouve ses racines dans la fondation même de Savoir-Faire Linux. Il y a une il y a peut-être 18 ans. Jérôme Oufella, qui est le troisième partenaire de Savoir-Faire Linux, m'avait rejoint à Montréal, il venait de Marseille. Moi, j'avais dans l'idée qu'on ne pouvait pas être une entreprise de services en logiciel libre si nous-mêmes on contribuait pas, on participait pas à l'écosystème du libre. On était sur le marché, mais on devait être aussi dans le contributif et dans les communautés. Jérôme, à l'époque, m'avait dit, écoute, il y a la voix sur IP, les communications sur Internet. C'était il y a 20 ans, hein, c'était pas évident à l'époque. Et on était parti sur un logiciel qu'on avait développé qui s'appelait SFL Phone, qui avait gagné en réputation. C'était un projet assez modeste, c'était un projet SIP, de téléphonie SIP, juste pour Linux. Et bon gré mal gré, au fil des années, on avait développé ce logiciel en recherche et développement. Et ça nous avait permis d'acquérir toute une expertise en ingénierie logicielle. Et voilà, et arrivé à la fin des années 2012-2013, finalement le projet était abouti, je savais plus trop quoi en faire, comment le faire évoluer, comment apporter de la valeur, et est arrivé l'affaire Snowdown. En fait, est arrivé plusieurs choses. D'abord l'affaire Snowdown et l'appel de Richard Stallman à la communauté, il nous faut absolument une alternative Skype ouverte et libre. Ça c'était un premier point. Parallèlement à ça, c'était un peu une histoire personnelle. Là, je m'excuse d'être un petit peu narcissique. Mon fils avait fini ses études à Montréal, avait passé son bac, était parti en Suisse faire son école d'ingénieur à l'EPFL. On avait perdu un petit peu de vue, on se voyait comme ça à Noël pendant les fêtes. Et un jour, on se retrouve en Bretagne et on se met à discuter. Il me raconte toutes ces histoires et il me parle de ses systèmes distribués. Il a l'intention de faire des jeux avec son cousin basés sur les systèmes distribués. Les systèmes distribués, c'est des systèmes informatiques, là je m'adresse au grand public, qui permettent de fonctionner sans serveur ou sans infrastructure sur Internet. C'est ce qu'on appelle les DHT, les Distributed Hash Table. C'est le mécanisme qu'on trouve derrière le partage de torrents, par exemple. Et tout ça, on discute. Moi, je suis avec SFL Phone, je ne sais pas trop quoi en faire. Adrien me parle de ces histoires distribuées. Richard Stallman lance un appel à la communauté pour un Skype ouvert et libre. Et tout d'un coup, je me rends compte que sur la table, on a tous les éléments, peut-être pour faire quelque chose de très innovant. Et c'est ce qui lance un petit peu Jamie. Ça va commencer en 2013-2014, tout doucement. Et c'est à partir de 2015 où on se rend compte qu'on a une technologie vraiment innovante. On est capable de créer des systèmes distribués extrêmement réactifs. Enfin, les problèmes distribués avaient, à l'époque en tout cas, étaient limités par la faible capacité de temps de réponse. Vous voyez, si vous téléchargez des torrents, ça va prendre plusieurs minutes avant d'aller chercher les nœuds qui peuvent fournir les services que vous recherchez. Là, on a trouvé une mécanique qui nous permet d'aller très très vite. Et on développe d'abord la couche basse, c'est ce qu'on appelle OpenDHT, qui est un projet qu'on trouve sur GitHub, qui fonctionne très très bien, qui est un système distribué qui permet de localiser à travers le monde des interlocuteurs sans passer par un serveur central. Donc il y a vraiment, en termes d'architecture, une petite innovation, en tout cas à l'époque. Et c'est à partir de là qu'on se met à développer, qu'on développe au fur et à mesure le projet. On est, je vais vous dire, très ambitieux. Moi, j'achète cash ce que me dit Richard Stallman. On veut couvrir toutes les plateformes, que ce soit les plateformes propriétaires type Microsoft, Mac, mais les plateformes mobiles, Android, iOS, etc. Donc on va se lancer dans ce développement, et je crois, de mémoire, c'est à partir de 2016 ou fin 2016, début 2017 qu'on commence à avoir une technologie qui commence à fonctionner.
D'accord, on va revenir sur certains points en détail. J'ai juste précisé, donc, pour les personnes qui écoutent, que les révélations Snowden, c'est donc ce 2013. Tu as cité l'EPFL, de mémoire, c'est l'école polytechnique qui est en Suisse. Alors, je ne sais plus si c'est à Zurich ou Lausanne.
Oui, c'est Lausanne.
Non, c'est Lausanne. Voilà. Et on va revenir tout à l'heure sur OpenDHT, parce que c'est ce que vous avez développé, et c'est la partie notamment annuaire, et c'est ce qui fait partie des spécificités, en fait, quand on va parler un peu des spécificités de Jamie. Outre l'aspect logiciel libre, effectivement, il y a l'annuaire décentralisé, il y a aussi le chiffrement de bout en bout, dont on parlera aussi un petit peu. Mais déjà, commençons par d'un point de vue usage. Aujourd'hui, on voit bien d'où ça vient, en tout cas les racines de ce projet, parce que les révélations Snowden, on rappelle que c'est le lanceur d'alerte de la NSA. Richard Stallman, dont tu as parlé, c'est le fondateur du projet du logiciel libre, enfin, du mouvement du logiciel libre et du projet GNU. D'ailleurs, une petite question en passant, je pourrais peut-être la passer après. Le projet s'appelle Jamie. Pourtant, c'est un projet qui est officiellement dans le projet GNU, donc je suppose que c'est quelque chose qui était important pour vous. Donc, pour quelle raison vous avez souhaité que ce projet fasse partie intégrante du projet GNU, et est-ce qu'il faut dire finalement Jamie ou GNU Jamie?
Ah, c'est une bonne question. Au fil du temps, je commence à dire GNU Jamie systématiquement. Ce serait pas une obligation. Richard Stallman, tu sais, habite à Boston. La Free Software Foundation a son siège social là-bas. Boston, Montréal, c'est tout à côté. Richard parle parfaitement français, donc c'est quelqu'un qui vient nous visiter très régulièrement à Montréal pour rencontrer la communauté du libre, pour faire des conférences. C'est quelqu'un qui est très apprécié ici. Et moi, je suis donc c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années. Bon, moi, je suis dans le côté business. La Free Software Foundation est toujours un petit peu méfiante de tout ce qui touche à l'argent. Mais néanmoins, on se côtoie et on échange. Et j'apprends qu'il vient à Montréal. Je vais le voir. Je l'invite à déjeuner. Et je lui dis que je souhaite que ce projet soit un projet GNU. Pourquoi ? C'est la première question qu'il va me poser. Et je vais lui dire parce que c'est un logiciel qui est sensible politiquement. Je pense que j'ai sur la table les éléments technologiques pour livrer la marchandise. Par contre, j'ai besoin de protection. Et il me répond tout de suite. Écoute, c'est la seule bonne réponse. Il me dit oui tout de suite. Donc c'est un logiciel qui a une dimension politique évidente. Et c'est certain que on voit la pression qu'ont les autres acteurs de ce type de logiciel, et être protégé et que ce logiciel soit protégé par la communauté du logiciel libre était pour moi presque une nécessité. Et puis pour l'avenir même du projet, pour la pérennité du projet, ça me paraissait important.
D'accord, merci. Alors, on va parler un petit peu justement, donc on va revenir sur donc les fonctionnalités et les cas d'usage classiques, parce que j'ai dit en introduction, c'était un logiciel de téléphonie et de messagerie instantanée, mais il y a d'autres fonctionnalités. Peut-être Christophe, tu peux me faire un petit tour d'horizon rapide des principales fonctionnalités de Jamie et des cas d'usage, et déjà rappeler que Jamie, c'est pas une application web, hein, c'est une application qu'on installe sur ordinateur ou téléphone.
Absolument. Jamie, c'est un client, donc qui va être téléchargé sur son PC ou sur son appareil mobile. Donc Jamie, ça aussi des fonctions vidéo, évidemment. Donc c'est vraiment un outil de communication qui fait chat, qui fait appel audio et puis appel vidéo. Et c'est aussi un client SIP. Donc, qui permet.
Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est qu'un client SIP ?
Alors, un client SIP, c'est-à-dire, c'est un client qui va permettre de se connecter sur les messageries téléphoniques de type Astérix, donc sur les réseaux téléphoniques IP.
Voilà, c'est l'un des supports, c'est le protocole de support de la plupart de la voix sur IP sur Internet, en fait. Donc, ce qui rend Jamie compatible avec beaucoup de choses sur Internet, en fait.
Voilà, exactement. Et donc ça a vraiment une fonctionnalité comme un Skype, comme ce que vous connaissez, comme un Telegram pour la partie chat. Ça intègre l'ensemble. Aujourd'hui, nos limitations sont des limitations qui sont liées au réseau pair à pair, sur le fait que donc on offre une expérience en fait extrêmement bonne en qualité audio et vidéo. Mumble qu'on utilise là offre une expérience audio extraordinaire, mais tout le travail d'ingénierie et de recherche et développement de Surface Linux s'est aussi projeté dans la qualité audio et vidéo de Jamie. Donc on appelle un pour un principalement. On est capable de faire du regroupement de visioconférence à mais on ne recommande pas de le faire à plus de 4-5 pour des éléments techniques liés à l'architecture de pair à pair, qui fait que la personne qui va initier la téléconférence à plusieurs va devoir héberger sur son ordinateur ou sur son téléphone, mais plutôt son ordinateur, les 3 ou 4 ou 5 flux vidéo. Et donc d'être doté d'une très bonne bande passante et puis d'une bonne ressource matérielle.
Ça, c'est un point important, effectivement, parce que ça rejoint la problématique, enfin la problématique, le choix de la décentralisation qui fait qu'il y a la multiplication des flux, et aussi un point important, je crois, dans Jamy, si j'ai bien compris, c'est que c'était du chiffrement de bout en bout, donc de pair à pair, ce qui fait qu'effectivement, ça aussi multiplie les flux, et ça peut amener de la possible saturation de la connexion. Donc toi, tu confirmes qu'il y a vraiment du chiffrement de bout en bout au niveau de Jamy, et non pas un chiffrement partiel comme il peut exister dans d'autres solutions.
Absolument, c'est un chiffrement bout en bout. On utilise la dernière version de TLS qui est sortie à la fin de l'année dernière, donc on est vraiment au goût du jour. Et comme il n'y a aucun serveur de relais, la communication passe uniquement de l'appareil à l'autre appareil à travers les réseaux. Donc c'est chiffré vraiment de votre appareil à l'appareil de votre correspondant. Et c'est pour ça que les cas d'usage, tu parlais des cas d'usage, Frédéric, les cas d'usage qu'on vise, et on reviendra sur la question de essentiel de Jamy, qui est un outil de communication qui préserve vraiment les données et on dit la privacy, mais la vie privée, on va dire, des utilisateurs, puisqu'il n'y a aucun échange de données. On pourra y revenir. Le cas d'usage est vraiment un cas d'usage en fait de communication sensible également entre deux personnes. Et donc on voit qu'aujourd'hui on a des médecins qui, dans le cadre du confinement, réalisent des consultations à distance avec Jamy, par exemple. Mais ça peut être, c'est aussi des avocats. Donc, tout ce qui va... C'est pour ça que Cyrène disait que c'est un projet qui est sensible, parce qu'effectivement, à partir du moment où on parle de communication chiffrée, on rentre dans un monde qui est particulier.
Oui, tout à fait. Et donc, on retrouve les cas d'usage que d'autres personnes peuvent connaître avec des outils équivalents, donc la gestion de contact. Une des forces de Jamy aussi par rapport à d'autres solutions qu'on a pu évoquer dans l'émission, c'est qu'on peut s'appeler directement, en fait, en contact direct. Vous recherchez, par exemple, je recherche Christophe Villemaire dans les contacts, je peux l'appeler directement, ou être appelé directement, contrairement à d'autres solutions où, pour se retrouver, il faut donner une adresse web avec un sorte de salon, etc. Donc c'est quand même une problématique, enfin une fonctionnalité très intéressante. Il y a le partage d'écran dont tu as parlé. Il y a aussi l'aspect messagerie textuelle. Je faisais des tests hier justement avec quelqu'un qui fonctionnait, et ensuite on a continué en messagerie textuelle. Je voudrais revenir sur un point quand j'ai fait mes tests m'a questionné, parce que je maîtrise pas du tout la technologie qui est derrière, et c'est ce qu'a évoqué un petit peu au début Cyril Béraud, c'est sur OpenDHT, donc qui est la table de hachage. Comment fonctionne cet annuaire décentralisé? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas un serveur central qui gère l'ensemble des personnes ayant un compte Jamy, parce qu'on va dire que quand on se crée un compte Jamy, c'est en local sur son appareil. Comment fonctionne cet annuaire décentralisé en essayant d'être le plus compréhensible possible?
Oui, je vais essayer. Sur le DHT, sur le système distribué, on est identifié par ce qu'on appelle techniquement un hash. C'est une chaîne de caractères de 40 caractères, de 40 chiffres, comme un numéro de téléphone, mais évidemment, comme c'est 40 caractères, c'est pas utilisable par un humain. Mais on peut d'ailleurs se communiquer entre soi juste en utilisant cet identifiant de 40 caractères sans s'inscrire dans un annuaire. Mais on a voulu fournir un annuaire sur le même principe qui allait pouvoir fonctionner, je dirais, sans même savoir faire Linux, spontanément, tout seul. Et on a mis en place une blockchain sur laquelle on va associer un nom d'utilisateur, Christophe Villemaire, Cyril Béraud, Frédéric, et à cette fameuse chaîne de caractères de 40 caractères. Ce qui fait que et cette blockchain va être chaque transaction va être validée par tous les acteurs de la blockchain. Ce qui rend cet annuaire comme un annuaire déterministe non réversible et qui ne dépend pas de savoir-faire Linux. Ce qui fait que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un dans une soirée ou dans la rue, tu vas lui dire mon identifiant de Jamy c'est Frédéric. Eh bien on va aller sur l'annuaire de la blockchain. À partir de ce nom Frédéric, on va récupérer ce hash, cet identifiant de 40 caractères, et la personne peut être certaine, parce que c'est garanti par tous les acteurs qui vont signer la transaction sur la blockchain, ton interlocuteur va être garanti que s'il tape Frédéric, c'est bien à toi qu'il va s'adresser. Alors je ne sais pas si je vais expliquer clairement les choses, je pense que les gars techniques vont me comprendre tout de suite.
C'est pas forcément évident à expliquer, effectivement, mais le point essentiel, c'est qu'effectivement, il y a cette certitude de savoir que c'est le bon correspondant et que ça ne dépend pas d'un serveur central, et qu'on peut même imaginer que ça fonctionne sur un réseau privé, par exemple, d'entreprise.
Oui,
ou de collectivité, c'est peut-être une... Oui, vas-y Cyril.
Non, mais c'est une propriété qui est très très forte des systèmes distribués, c'est que OpenDHT va fonctionner sans Internet. Pour donner un exemple, je sais que ça frappe, cet énoncé frappe les esprits. Imaginons que j'ai une connexion sur un paquebot Internet, j'ai un lien satellitaire, le lien satellitaire tombe, et bien tous les gens du bateau vont pouvoir continuer à utiliser le Jammy, le système distribué va se recroqueviller sur le réseau du bateau, et une fois que la connexion sera réouverte, va pouvoir tout de suite réintégrer le réseau distribué principal. Donc ça a vraiment une propriété qui est extrêmement forte, c'est-à-dire que même dans des endroits confinés notamment, ou un petit village avec une connexion très faible, eh bien si elle perd cette connexion, les gens du village vont pouvoir continuer à fonctionner. Pour prendre d'autres exemples, on travaille avec le secteur minier à Montréal, une mine dans le Grand Nord, c'est tout un village, c'est des connexions satellitaires, la connexion satellitaire tombe, et bien tous les gens de la mine vont pouvoir continuer à fonctionner avec le système de communication. Le système distribué va tout simplement se recroqueviller sur lui-même, continuer à fonctionner, et dès qu'il a une ouverture sur une autre partie du réseau, il va se rendre sur cette partie du réseau.
D'accord. Alors on va un peu avancer parce que le temps passe super vite, mais on aura l'occasion de vous réinviter, je vous le dis tout de suite, pour parler de Jammy et aussi pour parler du logiciel libre au Québec et compagnie, parce que sur un sujet beaucoup plus long. Mais quand même, petite question. Donc Jammy a été initié par Savoir-Faire, donc Linux. Alors aujourd'hui, qui développe Jammy? Est-ce que c'est toujours uniquement Savoir-Faire Linux ou est-ce que vous avez des contributions externes? Et deuxième question, à partir du moment où finalement on peut utiliser Jammy sans Savoir-Faire Linux, est-ce que derrière vous avez un modèle économique pour le développement de Jammy? Ou c'est un développement qui est fait en dehors, on dirait, de toute recherche de retour sur investissement, si je pourrais dire, si j'aime pas beaucoup ce terme. Peut-être Christophe Villemer sur cette partie.
Oui, mais Cyril pourra compléter sur la partie modèle d'affaires, et puis je laisserai Cyril répondre à l'autre. On a un modèle d'affaires effectivement lié à, tu as commencé à en parler Frédéric, à ce qu'on a appelé JAMS en fait, qui est un serveur qui va permettre justement d'intégrer un pool de clients Jammy dans une organisation. C'est-à-dire que au lieu de connecter les comptes à travers l'annuaire blockchain public, eh ben on va pouvoir connecter les comptes à travers une PKI d'entreprise, un annuaire LDAP, un Active Directory. Donc on a développé JAMS, qui est Jammy Account Management Server, qui va permettre ça. Et là on a à travers ce serveur-là, pour lequel il y a une version qui est disponible sur GitHub et sur notre site, on opposera un peu à la modèle d'affaires Red Hat une version supportée avec soutien technique et puis et mise à jour de sécurité. Donc avec un coût d'entrée qui est assez bas, et ça c'est le modèle d'affaires qui est en cours. On a un store qui va permettre d'acheter ces souscriptions en ligne qui devraient sortir, on l'espère, au mois de mai.
D'accord, super. Cyril, tu veux compléter sur cette partie
Écoute, actuellement, Jammy. Alors, Jammy, c'est quand même juste les composants de base que c'est GNU TLS, c'est FFmpeg, c'est PGSIP et d'innombrables sous-librairies qui sont gérées par la communauté. Donc, c'est vraiment un projet qui est très large là, en termes de qui utilise tous les composants libres principaux. C'est aussi une équipe presque d'une dizaine de développeurs actuellement, une dizaine de personnes qui travaillent soit sur la commercialisation, soit sur le développement. Essentiellement Savoir-Faire Linux, on a beaucoup de contributions, on a 2-3 contributeurs externes qui sont significatives. C'est beaucoup de relations avec l'équipe de FFmpeg, avec l'équipe notamment de PGSIP, avec qui on a créé des liens très étroits. Donc c'est vraiment un projet, on peut dire, libre au sens pur du terme. J'aimerais compléter quand même un projet. Alors là, c'est presque de la philosophie du libre. Un logiciel libre, le modèle économique doit marcher. Donc nous, celui qu'on a repris, c'est celui de Red Hat. Donc Jammy sera toujours distribué sous licence GPL V3 plus pour être précis, mais on va offrir des services à des organisations qui veulent avoir du support sur les composants logiciels qu'on fournit.
Alors on va préciser que la GPL V3 c'est la General Public License d'ailleurs du projet GNU, hein, qui garantit que c'est un logiciel libre et que les versions modifiées vont rester libres. Parmi les logiciels que tu as cités, on mettra les références sur le site de Cause Commune, à causecommune.fr, dans la page consacrée à l'émission, et sur le site de l'April, parce que tu as cité plusieurs logiciels, dont FFmpeg est un outil qu'on utilise beaucoup pour le traitement audio et vidéo. Mais il nous reste vraiment quelques minutes. J'ai rappelé déjà aux personnes qui écoutent l'émission que si vous voulez tester Jamy, le site web c'est jamy.net. Donc Jamy c'est J-A-M-I. C'est disponible sur toutes les plateformes a priori, hein, macOS, Windows, système GNU Linux, Android, je crois il y a aussi iOS. Donc n'hésitez pas à le tester.
Oui. Et Android TV également, là c'est une petite niche. Ceux qui ont une console Android TV Nvidia qui supporte des caméras, c'est probablement la seule solution qui permet de faire de la vidéo de salon familial.
D'accord. Alors, il nous reste 2-3 minutes maximum. Alors, première question rapide. Est-ce qu'avec le confinement, vous avez noté une montée en puissance de l'intérêt pour Jamy?
C'est certain. On a, depuis le mois de mars, on a vécu sur mars et avril une augmentation de quasiment 10 fois les téléchargements que nous avons sur Jamy.net. Et on a vraiment suivi la courbe de confinement des pays, il y a eu l'Italie, l'Allemagne, la France, les États-Unis, donc ça a été depuis mars et avril on est à quasiment plus 500-600% de téléchargement, et je dirais les zones principales de téléchargement et aujourd'hui d'utilisation de Jamy sont la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie notamment et l'Iran.
D'accord. En une minute, Cyril ou Christophe, quelles sont les évolutions à venir pour Jamy dans les mois ou les années à venir?
Alors, l'entreprise Sorafa Linux va investir beaucoup, est en train d'investir beaucoup et accélérer le développement de Jamy. Là, les premiers retours, je dirais, du marché sont extrêmement favorables. La crise actuelle a accéléré aussi toute une série de collaborations. Je peux vous annoncer qu'on vient de recevoir un soutien du Centre National de Recherche du Canada qui va nous permettre de financer pas mal de gros composants essentiels pour Jamy. Donc, c'est ça. Donc là, ça va probablement être un composant qui va propulser l'entreprise dans les années à venir.
D'accord. Et, Christophe,
pour être le groupe chat, en fait, c'est un des composants importants qui manque aujourd'hui, qui est en forte demande pour les usages. La réalité de pourquoi aujourd'hui il n'est pas prêt, c'est qu'un groupe chat décentralisé est vraiment sécurisé.
Explique en français ce qu'est un groupe chat, s'il te plaît.
Oui, un salon de discussion.
Oui, merci.
Oui, ça c'est un des gros enjeux. Comme je sais que c'est la fin de l'émission, je me précipite.
Vas-y.
Le groupe chat, effectivement, la collaboration, faire de Jamy qui était initialement pensé comme un système pair à pair, on veut développer tous les composants distribués pour le travail collaboratif. Donc, on va améliorer les performances des conférences. On devrait être capable d'arriver à 12, 24 peut-être participants à des conférences, à un système de groupe chat de conversation de groupe efficace qui probablement au mois de septembre j'aimerais envoyer un petit message à la communauté. On recherche de l'expertise. Si vous êtes des développeurs pointus C++, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche de l'aide et on cherche à augmenter notre équipe. Voilà.
Merci Cyril. Est-ce que en 15 secondes tu voulais ajouter quelque chose, Christophe?
Non, c'est bon, on vous remercie, puis on souhaite une bonne fin de confinement à tous.
Écoutez, je vous remercie, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau dans l'émission très bientôt. Donc c'était Cyril Béraud, président de Savoir-Faire Linux, Christophe Villemer, vice-président de Savoir-Faire Linux, donc Savoir-Faire Linux et savoirfairelinuxtoutattaché.com, et on parlait donc de Jamy, logiciel libre de téléphonie, messagerie instantanée, partage d'écran, c'est donc jamy.net, jamy.net, et toutes les références vous les retrouverez sur causecommune.fm et sur april.org, et je repasse la parole à mon camarade Étienne Gonu.
Merci Fred. On te retrouve demain, je crois, pour une émission spéciale sur les musiques libres à vous, 13h.
Tout à fait, 13h avec Valentin et Baptiste. On diffusera des musiques libres commentées par Valentin et Baptiste, donc à 13h.
Eh ben, bonne fin de journée et merci pour cet échange. Je vous propose une petite pause musicale. Nous allons écouter Bière et Potes par Les Gueules Noires. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. We'll be right back.
avec mes potes, mes frères de cœur, de lutter de rancœur. On ira boire des bières pour oublier hier. On fumera des joints pour oublier demain, puisque notre univers nous mènera en enfer. On profite de la vie, pas besoin de paradis, puisque notre univers nous mènera en enfer. Je prends le noir, le rouge, le premier fac qui bouge. Et cette gangrène qui nous unit et qui trace le chemin de nos vies, et jamais seul et sans espoir, grâce aux camarades rouge et noir. Kingston ou London, Escarienne, Ruger, Good Boy, dans les tribunes d'Hambourg, quartier Saint-Poli, les skunkers détraqués, Alaskin est parti, la Guinée c'est l'Astra, coule dans mes veines, et cohabite sans loi avec notre gangrène, la Guinée c'est l'Astra, coule dans mes veines, et cohabite sans roi avec la haine. Le chemin de nos vies est jamais seul et sans espoir, grâce aux camarades rouges et noirs.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1.
Nous venons d'écouter Bière et Potes par Les Gueules Noires, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Nous allons passer au dernier sujet. Dernier sujet, où nous allons prendre des nouvelles de François Poulain, trésorier de l'April et artisan du logiciel libre chez CLIS21. Comment ça va, François ?
Eh bien, Étienne, ça va bien. Et toi ?
Bah, écoute, très bien. En plus, en train d'animer l'émission, ça donne la pêche, donc c'est cool. Pour les personnes qui n'auraient pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, notamment sous tes nombreuses casquettes apriliennes ?
Eh bien, oui, je travaille. En fait, je vis dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans un endroit qui est, on en reparlera, qui est rural. Rural au sens de, il n'y a pas de ville de plus de 10 000 habitants à moins de 50 minutes de chez moi. Donc c'est rural. Je travaille chez CLIS21, qui est une coopérative qui est basée historiquement à Liévin et qui s'est développée un petit peu aussi sur l'île ces dernières années. On a deux lieux. Et donc je travaille là-bas, on fait du logiciel libre. Et je suis aussi engagé à l'April depuis assez longtemps, membre depuis 2005 et engagé depuis plus de 10 ans. Et voilà, avec le temps, je suis devenu trésorier. J'ai pas encore réussi à refiler mon mandat, donc je suis encore trésorier. Et voilà, je participe pas mal à l'April, ces dernières années, je participe pas mal à l'April au niveau de l'admin 6. Donc voilà, faire un petit peu les tâches de l'ombre, veiller à ce que les serveurs fonctionnent bien.
T'as point de vue sérieux, on t'en est très beaucoup de remerciements, je trouve pas le terme.
Ouais, c'est une tâche ingrate, souvent on dit, parce qu'on s'en aperçoit que quand ça tombe en panne.
Non, mais je parle juste pour mes collègues, je sais, voilà, on vous envoie plein de cœur, soit à toi, à Quentin, à Christian, voilà. Donc, merci beaucoup pour cet engagement, ce travail qui est très bénévole. Tu utilises un terme, parce que tu te présentes comme artisan du logiciel libre, moi je trouve ça, je trouve l'expression très jolie. Est-ce que tu pourrais justement nous dire pourquoi tu es attaché, toi, à cette expression? Pour toi, c'est quoi un artisan du logiciel libre? Qu'est-ce qui fait de toi un artisan?
C'est une bonne question. On fait du logiciel libre, on n'a pas une politique de l'offre. On n'aurait pas un produit qu'on peaufine bien et qu'on essaye de refiler le même à tout le monde. Nous, la première chose quand on va voir un usager et qu'on réfléchit à des solutions avec lui, la première chose qu'on écoute, c'est son besoin. Et en fait, on part du principe que c'est à nous de s'adapter à son besoin et pas l'inverse. Alors ça, c'est le principe théorique. Ça ne veut pas dire qu'on ne déploie pas des produits, parce que des fois, il y a des besoins qui sont similaires d'une organisation à une autre et on va pouvoir les reproduire. Et puis, très souvent, la mutualisation a du bon. Ça permet de limiter les coûts et c'est le sens aussi du logiciel libre, c'est de partager, de mutualiser, de s'enrichir mutuellement. Donc de partager les besoins, ça a un intérêt. Mais on essaye, voilà, de ne pas oublier ça. Il y a beaucoup de gens dans le monde de l'informatique, y compris dans le monde du logiciel libre, qui ont une spécialité, qu'ils affûtent, et ils essayent de trouver des gens qui sont intéressés par leur savoir-faire. Ce qui est une très bonne approche, j'ai aucun problème avec ça. Mais nous, on essaye plutôt, en fait, d'aller voir les organisations, des associations, des mairies, des entreprises, etc. Et nous, notre préoccupation, c'est qu'elles aillent vers le libre. Et donc, pour qu'elles aillent vers le libre, on se préoccupe avant tout de leurs besoins. C'est ça, le côté artisanal de notre approche.
Ça me paraît très clair. J'imagine qu'en ce moment, peut-être que tu télétravaillais déjà à la base, mais j'imagine que de fait, là, vous devez télétravailler encore plus. Comment, au sein de structure, qui est CLIS 21, vous ressentez cette période? Toi, quelle pratique et quel modèle d'organisation mettez en place?
Alors, j'ai présenté CLIS 21 comme une coopérative, et en fait on est un petit peu plus que ça, c'est que nous on est autogéré, et donc ça veut dire que chez nous il n'y a pas un gérant qui prend les décisions, on a un gérant élu, mais qui a vraiment un mandat de représentation auprès de l'administration. Les décisions, elles se prennent en collectif, donc on se réunit mettons deux fois par mois à peu près, et on discute en fait des orientations à venir, soit sur le plan technique, soit sur le plan des engagements qu'on peut prendre à droite à gauche, des événements qu'on a envie d'organiser, des sujets qui nous traversent. Et là-dessus, le confinement pèse un peu, quoi. C'est-à-dire que sur l'activité informatique, dans le monde de l'informatique, comme disaient les collègues avant, on est plutôt bien outillé, surtout dans le monde de l'informatique libre, on est plutôt bien outillé pour travailler à distance, ce qui ne veut pas dire que humainement c'est pas pesant, mais par contre nous une difficulté quand même, c'est qu'on sent que la capacité à échanger de visu et à dessiner au tableau ensemble ou à débattre ensemble, elle est franchement amputée, quoi. Parce que bon, on met en place comme tout le monde des solutions d'audioconférence ou de visioconférence ou autre, et ça remplace pas quand même la réunion en présentiel.
Oui, c'est sûr, et c'est intéressant aussi que ça vienne justement de structures qui travaillent justement dans l'informatique. Je trouve que ça fait le lien avec ce qui a été dit plusieurs fois dans l'émission sur en fait l'importance de l'humain qui reste même dans nos métiers, dans ces métiers, un des facteurs principaux, quoi, ouais. Et du coup, alors toi, ta pratique du télétravail, bon, j'imagine que tu étais télétravaillé déjà de base. Est-ce que tu as des conseils à donner en termes de télétravail? Est-ce que toi, ça t'a permis de trouver d'autres outils, d'autres manières de travailler?
Nous, on a une pratique occasionnelle chez nous, mais régulière du télétravail. Occasionnelle au sens où c'est pas possible tellement dans notre organisation de ne pas se voir pendant deux mois. Alors là, bon, on y est contraint, donc on s'adapte. Mais habituellement, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Habituellement, on souhaite plutôt se voir régulièrement, se voir plusieurs fois dans la semaine, s'il faut. Alors au niveau télétravail, ce que je recommande un peu, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail. Faut pas négliger sa posture au travail, d'avoir un bon ordinateur, un bon écran, de prendre le temps de régler sa chaise, d'avoir une table à hauteur, etc. Et je dis ça tout en mesurant le fait qu'on n'est pas toujours bien outillé. Par exemple, moi, chez moi, je vis dans une petite yourte à la campagne. Et j'ai pas tout ça chez moi. J'ai pas une chaise de bureau. J'ai pas un bureau à hauteur ergonomique, etc. Donc on bidouille, quoi. Je m'assois sur. J'ai adapté ma chaise en paille classique. Je l'ai adaptée avec un bidon pour régler la hauteur. Je fais des choses comme ça.
J'ai une chaise en dosier avec un gros coussin qui me met à peu près à bonne hauteur. Ouais. Donc ouais, on bidouille. Je pense que c'est le terme.
Enfin, du coup, c'est important, il faut pas négliger ça. Hein. Parce que même si ça peut sembler de la bidouille, ça joue énormément en termes de confort. Parce que passer plusieurs semaines, 8 heures par jour, voire plus, assis dans une mauvaise posture, ça peut être mauvais pour le dos, ça peut être mauvais pour les cervicales, ça peut être mauvais pour les canals carpiens, hein, les poignets. C'est les fameux troubles musculo-squelettiques dont on entend parler de temps en temps. Quand ce genre de choses nous affecte, ça provoque des douleurs assez lourdes. Et ça peut empêcher de dormir, quoi.
Puis ça joue sur le moral, mais on voit bien que le moral est quand même particulièrement important aussi dans cette période. Alors du coup, toi, tu nous parlais de tes conditions de confinement que tu crois que tu décris comme étant confinement de luxe. Bon, effectivement, tu peux profiter de l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais pour garder la pêche? Est-ce que tu as des recommandations, que ce soit de lecture, de quoi que ce soit d'ailleurs?
Alors moi j'ai la chance d'avoir un potager, c'est la période des semis en ce moment, donc en fait je fais un petit peu une promenade plusieurs fois par jour où je vais voir méticuleusement où en sont les semis, ça occupe. Et sinon, comme tout le monde, on consacre pas mal de temps à lire des livres, à écouter des podcasts, voilà. Deux podcasts par exemple qu'on écoute beaucoup en ce moment avec ma compagne, c'est Jean-Claude Amezen, c'est sur les épaules de Darwin sur France Inter, qui sait faire des jolies histoires historiques, scientifiques, techniques, philosophiques, et avec une grande ouverture d'esprit, c'est très beau.
Très, très on mettra bien. Les liens sur le site, ouais. De la prime.
Et un autre podcast qu'on a écouté il y a pas longtemps, qui était sympa, c'était un cours de cosmologie de Aurélien Barraud, qu'on trouve sur des plateformes vidéo en ligne. Voilà un exemple de choses qu'on écoute.
Super. Je vois malheureusement que le temps filme, en tout cas. Bah, si tu as une dernière chose que tu souhaiterais préciser.
Ma compagne, elle lit en ce moment L'homme neuronal de Jean-Pierre Changeau. Et moi, j'ai pas le temps de lire, je fais de l'ordinateur à la place.
Bon, enfin, non, on sait que tu es très investi comme d'autres aussi dans ton travail, mais aussi pour l'April, c'est pas forcément des temps chômés pour tout le monde. Franchement, François, un grand merci. Alors Fred, veux des photos de ton organisation avec ton bidon et ta chaise, je crois qu'il te relancera sûrement sur le sujet. Un grand merci François pour cet échange.
Ouais, merci à vous. Super émission.
Merci. Alors, nous approchons donc de la fin de l'émission. Alors, comme à mon habitude, on va essayer de faire ça ça va être un peu sur le fil. Je vous propose quand même quelques annonces avant qu'on se quitte. Donc, on en mentionnait avec Frédéric, qui anime une émission spéciale. Donc, ce sera la troisième sur les playlists Libre à vous, avec une compilation de musique libre qui ont été déjà diffusées dans l'émission, commentée par Valentin, qui anime deux émissions musicales sur Cause Commune. Et donc, ce sera en direct demain, mercredi 29 avril, de 13h à 14h. Et bien sûr, disponible ensuite en podcast. Autre annonce, donc pour travailler à distance, des agents du ministère de l'Éducation nationale ont mis à disposition des services basés sur des logiciels libres, utilisables par les académies. Et ça va comprendre PeerTube, donc un service de vidéo, Nextcloud, des Etherpads, des forums, des blogs, des portails d'applications personnalisables. On vous mettra le lien vers le site qui recense tout ça, avec des tutoriels, avec des vidéos qui sont disponibles. Nous avions aussi parlé du libre Exoplanète, qui est un événement libriste très important organisé par la Fondation pour le logiciel libre, la FSF, Free Software Foundation, et donc un événement annuel qui est organisé tous les ans donc à Boston, annuel donc les ans, c'est logique. Et donc l'édition 2020, bah, vu le contexte, a été organisée entièrement à distance, ce qui en soit une très belle prouesse, et bah, les vidéos sont désormais en ligne. Donc on vous mettra ça aussi, bien sûr, le lien sur april.org. Bien, notre émission se termine. Alors je remercie les personnes qui ont participé, donc Véronique Baudet, Julien Négro, Frédéric Couchet, Cyril Béraud, Christophe Villemer et François Poulain. Aux manettes de la régie aujourd'hui, William. Merci également à Sylvain Kunzmann qui bénévole à l'April, à Olivier Gréco, le directeur d'antenne, et qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, hein, comme j'ai pu le mentionner, ainsi que sur la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce que vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse libreavous@april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct le 5 mai 2020 à 15h30, toujours en confinement et toujours sur Mumble, et nous continuerons sans doute des nouvelles des amis de l'April et des personnes qui ont contribué et qui contribuent à nos actions. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 5 mai, et d'ici là, prenez soin les uns et les unes des autres.